Second, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà, donc en Belgique, comme partout ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de situation facile. Il y a des pays où on est véritablement persécuté pour le nom de Jésus, rien à voir avec ici. Ici, c'est aussi une forme de persécution plus discrète, plus atténuée, mais quand même assez forte et puissante par les médias, etc. On voit bien que certains chrétiens commencent déjà à longer les murs et on n'est plus trop... On ose plus facilement proclamer ce qu'on croit, et pourtant nous devons le faire. Dieu nous convie à proclamer, à être ce que nous sommes et à annoncer ce que nous devons annoncer. Et l'ennemi s'y prend bien, il a beaucoup de stratégies pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. L'Église de Jésus-Christ en Belgique a de la peine pour avancer, mais Dieu veut la faire avancer. Dieu est le même partout et dans toutes les époques de l'histoire, mais il attend de nous un effort important, c'est de vraiment racheter le temps. Et le temps, il est précieux, mais il est tellement utilisé pour plein de choses. Vous savez, le temps, on crée des systèmes pour que vous puissiez rester scotché à votre télévision, ou à Internet, illimité et autres, sur votre GSM, en train d'écrire des MSM, tout ce que vous voulez. Et donc, on est scotché par tous nos systèmes et par toutes nos activités. Il n'y a jamais eu autant d'activités aujourd'hui pour les enfants, pour les jeunes. C'est chouette, c'est bien. On est tellement pris là-dedans, des activités pour les adultes, des activités pour troisième âge, enfin, des activités pour tout le monde. Et donc, on n'arrive plus. Hein, et les gens ont besoin de sous, ils doivent travailler énormément, de plus en plus, hommes et femmes au travail, et il y a un taux de divorce extraordinaire, donc les gens sont en train d'essayer de régler leurs problèmes, ils sont en berlificoté dans des situations impossibles dans lesquelles ils se sont mis, parce qu'ils ont oublié Dieu, et qu'on voit bien dans les juges, au chapitre 2, quand on oublie Dieu, eh bien, on a des problèmes, il y a des idolâtries dans nos vies, et on n'a pas les bonnes priorités. En priorité, ça devrait être Dieu, mais c'est des choses. Hein, et alors, forcément, il nous arrive des tas de problèmes. Et ceux qui veulent vivre d'une manière pieuse, ceux qui veulent vraiment vivre d'une manière juste, ils sont attaqués d'une manière incroyable. Et donc, on va dire que pour tous, ceux qui sont injustes et ceux qui sont, ils sont justes, enfin, ceux qui sont justes, c'est parce qu'ils sont justifiés par le sang de Jésus. C'est parce qu'ils ont la foi, et Dieu leur a donné la foi pour être sauvés. Et Dieu donne à toute personne la foi pour être sauvée, il suffit de s'approcher de Dieu. Hein, Dieu n'est pas quelqu'un qui donne la foi à certains en disant « Ah, les autres, ça c'est une autre histoire ». Non, ce n'est pas un club fermé, mais c'est vraiment une œuvre pour tous. Malheureusement, beaucoup rechignent à entrer dans le royaume de Dieu. Il y en a qui sont proches du royaume de Dieu, mais il y en a qui veulent s'en écarter le plus possible. Ça, on ne sait pas faire grand-chose. Nous devons prier pour ces gens-là, nous devons être des gens de prière, nous devons être des passeurs de flammes, nous devons donner envie aux gens pour qu'ils puissent recevoir. Mais bien sûr, si nous sommes accaparés, notre temps aussi est accaparé par les choses du monde. Vous savez, l'ennemi va venir et l'ennemi fait son œuvre. Certains se retrouvent paralysés dans l'œuvre de Dieu. Paralysés. Spirituellement, déjà ils n'ont pas la force pour eux-mêmes, ils sont chaos dans un domaine ou l'autre. C'est un petit peu comme un virus en informatique qui cale un système. Hop, il y a une partie de l'ordi qui va plus. Bon, le reste ça va encore. Mais cette partie-là est foutue. Et puis, il y a une deuxième partie, une troisième. Puis, le but, en fait, du virus, c'est de vous bloquer tout le système. Le disque dur va être complètement guérillé. Va changer. Mais quand notre vie spirituelle est complètement bloquée, on en arrive à des situations catastrophes, comme je vous avais dit il n'y a pas longtemps, une enseignante de Profondeville qui s'est suicidée avec ses deux enfants en brûlant son véhicule parce qu'elle n'a plus trouvé de solution loin de juger une telle personne, simplement pour dire que dans notre société, les gens ont abandonné Dieu et se retrouvent dans des situations de catastrophe, sans solution. Ils n'ont plus de solution. Ils ont tenu pendant un temps. Ils ont tenu bon. Ils ont été très, très courageux. Ils ont été forts. Ils se sont battus contre des montagnes, des problèmes énormes. Ils ont réussi pendant des années, malgré tout, avec tout ce qu'on ne sait pas, avec des difficultés énormes qu'on ne vous dira jamais, qu'on ne sait pas nous-mêmes. Mais, et puis à un moment donné, ça s'est écroulé. Leur vie s'est écroulée. Elle n'a plus tenu. Un peu comme dans les crabes, au fond de... Et vous savez, les crabes, quand ils se battent, ils se vident à l'intérieur. Après, il y a encore la carapace. Et puis, il n'y a plus rien à l'intérieur. Comme un citron pressé. Il n'y a plus rien. Et les gens sont quelquefois comme ça. Et les chrétiens, s'ils ne font pas attention, vont connaître le même sort. Et donc, nous avons à nous nourrir de la parole de Dieu, à venir dans la présence de Dieu, à nous unir, frères et sœurs, en priant les uns pour les autres, en cherchant le règne de Dieu. Et là, nous allons faire une différence, nous allons impacter la société. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose de différent dans nos vies, parce que notre vie intérieure est construite par Dieu, pas par nous-mêmes. Il n'y a pas de faux semblant, mais Dieu fait une œuvre profonde. Mais malgré cela, l'ennemi, a agi dans notre passé, dans notre enfance, dans notre jeunesse, et il y a des choses qui ont été créées, des impacts négatifs qui ont été créés, et en Christ, ils peuvent être délogés, ils peuvent être rétablis, mais pas toujours forcément. Il y a une grande partie de notre vie qui sont mises à la lumière et transformées par la grâce de Dieu, puis quelquefois, il y a encore des aspects dans un tiroir ou l'autre de notre vie qui n'a pas été réglé, pas qu'on n'a pas voulu, mais on n'y est pas arrivé, on n'a pas, un peu comme Josué qui devait prendre tout le pays, mais il n'a pas pris tout le pays, et c'est pas qu'on lui en veut, parce que Josué a fait son boulot, c'était aux autres aussi, après lui, à faire le travail, à déloger les ennemis, mais ils ont toujours laissé des ennemis à l'intérieur. Donc on peut dire que le pays d'Israël, c'était à Israël, mais il y avait encore des ennemis à l'intérieur. Et Dieu ne veut pas dans nos vies qu'il y ait du territoire que l'ennemi peut encore utiliser à sa guise. Nous devons tout donner au Seigneur, et c'est vrai qu'il y a quelque chose à donner, mais il y a aussi quelquefois le besoin d'un secours extérieur, parce que par nous-mêmes, quelquefois nous n'y arrivons pas. Nous avons tout essayé, nous avons tout fait, mais il y a encore un domaine inexploré, il y a encore un domaine qui n'a pas été travaillé par Dieu, et l'ennemi utilisera cela pour nous faire tomber, nous faire vaciller, nous paralyser dans l'œuvre de Dieu, nous atteindre, nous démoraliser, nous fragmenter. Il veut agir d'une manière négative, si nous lui permettons, il le fera, mais avec Dieu, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Église, parce que Dieu ne nous a pas laissés tout seuls, nous ne sommes pas des ermites sur une île. Dieu nous a placés dans son corps, dans son Église et dans le corps de Christ. Il y a des ministères, il y a des personnes, il y a des personnes capables de nous écouter, des personnes capables de construire avec nous, de nous aider à découvrir qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont les éléments qui déclenchent des problèmes intérieurs. Alors, un premier texte que j'aimerais bien voir sur lier et délier, c'est intéressant, c'est Matthieu chapitre 16, verset 13. À partir du verset 13. Jésus arrivait sur le territoire de Césarée et de Philippe. Posa cette question à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Oh, c'est une parole fabuleuse. Et Jésus voulait savoir ce que les disciples pensaient de lui. Alors, certains disaient, oui, tu es un prophète, tu es Jérémie, prophète Jérémie, Élie, etc. Hein? Et mettez-vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre, vraiment, va lui répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, c'est pas par la chair, c'est pas par toi-même, c'est pas par ta volonté que tu as pu dire ces choses. C'est le Père qui a mis ces paroles dans ta bouche et qui t'a révélé cela. C'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors, déclaration de Jésus à propos de Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, Pierre doit être compris ici sur cette pierre comme une confession. Une confession. Pierre a confessé. C'est pas parce que Pierre est le premier pape selon la religion, catholique. Non. Mais Pierre, sur cette pierre, sur cette déposition, cette confession, sur ce que tu viens de confesser, que Jésus n'est pas seulement un prophète. Si, il est prophète, mais il n'est pas seulement un prophète. Il est le Messie d'Israël, le Messie attendu par Israël, qui vient sauver, qui est là pour être le Seigneur de nos vies, et le Dieu, le Fils du Dieu vivant, qui pardonne nos péchés. Et sur cette pierre, sur cette confession que tu viens de faire, Pierre, eh bien, je bâtirai mon église avec des gens comme toi, qui confessent, comme toi, que Jésus est le Fils de Dieu. Et avec tous ceux qui confessent de la même manière le Seigneur, bien sûr, crucifié, ressuscité, il n'était pas encore crucifié, ressuscité à ce moment-là, mais on sait que Jésus va fonder son église, et que cette église, elle va être fondée le jour de la Pentecôte. C'est à partir de ce jour-là que l'Église existe. Donc, Jésus était mort, ressuscité, remonté au ciel, et l'Esprit était descendu sur la terre parce que Jésus avait été glorifié. Et donc, avec ceux qui confessent comme toi que je suis le Christ, je bâtirai mon Église. Et les portes, donc l'Église, c'est l'Ecclésia, l'Assemblée des rachetés, de tous ceux qui aiment le Seigneur, qui ont cru en lui et qui croient en lui, qui croiront en lui, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Vous savez pourquoi? Que les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre Jésus, contre l'Église, pardon, parce que c'est Jésus qui dit en Apocalypse, chapitre 1, verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est Christ qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Il n'y a plus aucune crainte à avoir. La mort a été vaincue. Le prince de ce monde a été vaincu à la croix. Les portes de l'enfer ne pourront prévaloir contre l'Église. Et Jésus dit à Pierre, « Je te donne les clés. » Je donne les clés. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec les clés? Trousseau de clés, ça vaut la peine. Hein, si je vous donne mon trousseau de clés, vous pouvez aller prendre ma voiture, dans la maison, vous pouvez aller où vous voulez. Et Jésus, il va donner les clés à Pierre, parce que Pierre va ouvrir la porte de l'Évangile aux Juifs, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes vont être sauvées, plus 5000, etc. Et il va ouvrir la porte aux non-Juifs chez Corneille. Et bien sûr, il y en a d'autres qui continueront la mission, l'apôtre Paul qui fera un travail extraordinaire, notamment. Alors, on arrive aux paroles. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Et voilà ce qui est intéressant ici, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous vous rendez compte? Quelle puissance il donne à Pierre et à tous les disciples du Seigneur qui seront dans la même église. Parce que s'il le fait pour Pierre, il le fait pour toute l'église. Pierre n'est pas sur un piédestal. D'accord? Il n'y a aucun piédestal. Même, il n'y a pas de podium avec Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un, deux, trois, comme dans une course de Formule 1. Non, non. Sur le même pied. Et vous savez que nous serons avec Christ assis sur son trône. Il va nous partager sa gloire. Alors, c'est un honneur pour Pierre, parce que il a pu ouvrir la porte pour les Juifs et pour les gentils après. Et c'est aussi une autorité que Dieu nous donne à chacun. Il n'y a pas qu'à Pierre que Dieu donne cette autorité. Dieu donne l'autorité à tous ceux qui la reçoivent par la foi. Nous recevons l'autorité, nous recevons une identité de fils de et de fille de Dieu, et nous recevons aussi sa puissance. Hein? Alors, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, selon le docteur Madré, cité par Maurice Ray, il dit ceci, le lien constitue un degré d'importance dans l'influence du mal sur l'homme, en relation avec une blessure. Il peut demeurer longtemps insoupçonné, jusqu'au jour où la personne désireuse d'affirmer ses certitudes et de progresser dans sa foi réalise douloureusement qu'elle ne peut pas se donner vraiment. La volonté peut s'exprimer librement partout ailleurs, mais pas sur certains points où elle paraît comme neutralisée malgré tous les efforts tentés pour y remédier. Terrible ça, hein? Je vais relire ça. Le lien constitue un degré d'importance dans l'influence du mal sur l'homme, en relation avec une blessure. Il peut demeurer longtemps insoupçonné, jusqu'au jour où la personne désireuse d'affirmer ses certitudes et de progresser dans sa foi réalise douloureusement qu'elle ne peut pas se donner vraiment. La volonté peut s'exprimer librement partout ailleurs, mais pas sur certains points où elle paraît comme neutralisée malgré tous les efforts tentés pour y remédier. C'est ce que je disais tantôt. Il y a des points obscurs en nous. Et voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait d'ailleurs. On a été honnête, on a été sincère, on a tout fait comme il fallait. Enfin, on pense. On ose le croire. Et pourtant, il reste quelque chose. Il reste une ombre, une tâche. Voilà, quelque chose qui est difficilement déboulonnable. Alors, les liens, ils peuvent être de trois types, passionnels, occultes et personnels. Passionnels, au niveau de la pensée et des sentiments, en rapport avec l'imagination et le souvenir. Donc, des liens passionnels. Au niveau de la pensée et des sentiments. Des liens occultes. Les liens occultes sont les conséquences de l'idolâtrie, des pratiques de l'occultisme, de la voyance, etc. Ceux qui ont été voir des voyants et les consulter pour l'avenir, etc., etc. Et bien là, ils ont fait un pas qui les a conduits à avoir un lien, éventuellement. Hein. Ils sont liés, il y en a même qui ont été plus loin et on peut arriver à la possession, malheureusement. Mais il y a une solution à tout. Hein. Donc, rassurez-vous, même les liens ne sont pas indéfectibles. Et donc, Dieu peut changer les choses. Et de tout objet qui sert de support et de médiation à leur action. Donc il y a des objets dans la voyance, dans les arts occultes, qui sont servent de médiation à leur action, de support, et des pratiques des croyances mystiques orientales, yoga, méditation transcendantale, toutes ces choses-là, bien d'autres, et donc certains arts martiaux, et donc l'occultisme. L'occultisme, donc ça, bien sûr, ça opère des liens, bien entendu. Et puis personnel aussi, les liens personnels, ce sont les liens en relation avec des personnes dont le comportement, les paroles, les agissements ont joué un rôle déterminant dans la vie des personnes concernées. Hein, on peut s'imaginer aussi des adultères, on peut s'imaginer tout, mais il y a bien d'autres choses que cela, des actes qui se sont produits dans les familles entre des parents et leurs enfants, des choses abominables, des fois des choses malheureuses, personnelles, des choix qui ont été mauvais. Ces liens peuvent être assimilés à des troubles d'ordre psychique aussi. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup de liens différents, passionnels, occultes et personnels. Simon, par exemple, avait un problème. Simon, le magicien, dans les Actes des Apôtres, donc il voulait avoir le don du Saint-Esprit à prix d'argent. Parce que lui, il effectuait autant de Philippe. Philippe qui faisait des miracles, des choses extraordinaires, qui apportait la parole à Samarie, et il voulait avoir les dons de Philippe pour prix d'argent. Et donc, Pierre devra lui dire, puisqu'il se trouvait là à ce moment-là, ils étaient venus voir ce qui se passait, le réveil en Samarie, et Pierre va lui dire, ton cœur n'est pas droit devant Dieu, tu es dans les liens de l'iniquité. Donc l'iniquité, ça peut être un lien aussi. Repends-toi, prie le Seigneur pour que ta pensée, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Et donc, voilà, les liens de l'iniquité. Ça peut être charnel. L'iniquité, ça peut être quelque chose de charnel. La chair peut développer l'iniquité. Mais ça peut être des liens spirituels. Des liens de l'iniquité, mais au niveau spirituel. Et dans Luc 13, versets 10 à 17, Jésus guérit une femme courbée depuis 18 ans, on va peut-être aller voir ça, Luc 13, si vous voulez bien. Luc au chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement, elle se redressa, et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Extraordinaire. Elle était captive, paralysée, paralysée dans le sens qu'elle ne savait pas se remettre debout. C'est pas une paralysie, c'est une posture qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle était courbée. Et beaucoup de gens sont courbés spirituellement. Beaucoup de gens sont courbés dans leur psychologique, dans leur mental. Le moral est quelquefois bien courbé. Et Dieu veut relever. Hein, il est le Dieu du relèvement. La résurrection, c'est le relèvement. Dieu veut relever nos cœurs, nos esprits. Donc, Jésus va opérer deux choses. Il va prendre autorité sur le lien de cette femme, sur l'esprit d'infirmité. Il va prendre, il va lier l'esprit d'infirmité, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il va délier cette femme du réseau de l'ennemi, hein, cet esprit d'infirmité a un réseau, il y a des choses, des pensées, des raisonnements, des forteresses à l'intérieur, qui fait qu'on reste courbé. Et il va la délier par rapport à tous ces raisonnements, ces faux raisonnements, tout ce qu'il a tenu à l'intérieur captive. Il n'y a pas seulement l'esprit, il y a tout ce qu'il a, c'est comme une toile d'araignée. une toile d'araignée qui est captive, la mouche qui est au milieu. Et quelquefois, on est cette mouche au milieu d'une toile. Et l'ennemi fait son œuf, il met des fils tout autour, on ne sait plus bouger, ça c'est la paralysie. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire, c'est nous paralyser, nous empêcher d'être heureux, de jouir pleinement de notre vie, d'être complètement libre. Alors la délivrance est à la fois, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle va être délivrée, elle va être complètement rendue libre, extraordinaire. Et cette délivrance, ce sera une déclaration de pardon à la personne repentante. Parce que si nous sommes liés, bien souvent il y a des fautes qu'on a commises. Hein. Je ne dis pas qu'on est toujours dans la faute, parce que quelquefois nous sommes le résultat des autres générations qui nous ont mis aussi quelque chose. Hein. Il y a des liens héréditaires. Mais il y a des fautes personnelles aussi, au travers de ces choses, il y a aussi des fautes personnelles. En tout cas, quand on confesse même le péché de nos aïeux, il y a une transmission de certaines choses. Hein, quand on pense à David Wilkerson et l'évangéliste qui était Nicky Cruz, merci Francine, Nicky Cruz, qui était démonisé quelque part par sa mère qui faisait de la sorcellerie, etc. Et bon, il va être libéré. Hein. Et à partir du moment où il a été libéré par le Seigneur, parce qu'il a mis sa foi en Christ, eh bien, il a pu vivre une vie normale. Mais avant, voilà, il était le résultat de ce qui s'était produit dans la vie de ses parents, grands-parents, etc. Il y a eu des choses qui ont été transmises, pas dans tous les cas qu'il y avait de transmission, hein, mais dans son cas, il y avait quand même quelque chose. Et puis, il y a la méchanceté qui a été produite au travers d'une vie qui n'était pas à Dieu. Et il a utilisé ce mal-être qui était en lui, cette violence qui était en lui pour faire beaucoup de mal en tuant des gens, etc. Mais il a été complètement pardonné. Il y a une repentance dans sa vie. Dieu lui a pardonné, puisqu'il a demandé pardon. Déclaration de pardon, ça c'est important. Déclaration de refus de la mainmise de l'adversaire sur elle, ça c'est important. Il y a des paroles qui doivent sortir. Paroles de pardon. Dieu me pardonne, mais je dois aussi prendre ce pardon, demander pardon, saisir cette repentance, refuser de vivre dans cette trajectoire. Déclarer qu'on refuse la mainmise de l'adversaire. Le grappin. Et la rupture des liens qui la servissaient. Cette femme qui était là depuis 18 ans, infirme depuis 18 ans, c'est ces trois choses-là. Il y avait ce désir en elle, cette déclaration de Jésus à son propos, c'est cette déclaration du refus de la mainmise de l'adversaire et une rupture des liens dans la vie de cette personne qui la servissait, qui la paralysait, qui l'empêchait d'être ce qu'elle devait être. La délivrance consiste, avec la collaboration de la personne liée, à trancher les liens discernés. Et il faut que la personne collabore. Si on ne collabore pas, si on prie pour une personne et qu'on chasse les démons de cette personne, ben on ne va pas faire grand-chose parce que ça va revenir. Et ça va revenir. Et donc la personne doit collaborer, doit réaliser qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin, elle se repent, elle accepte le Seigneur, elle accepte que le Seigneur agisse dans sa vie. Et puis, il y a d'autres personnes dans l'Église, voilà. C'est ça le pluriel dans l'Église, c'est ça. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Les autres sont là aussi pour nous aider. Hein, c'est la même chose, quand des gens font un naufrage, si quelqu'un ne vient pas les aider, hein, quelqu'un qui se perd en montagne, si personne ne vient l'aider, une avalanche ou quoi que ce soit, quelquefois on parvient à sauver des vies, quelquefois, pas toujours, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui se mettent en œuvre. Si nous sommes en bonne santé, nous allons aider les autres. Nous sommes là pour ça, pas simplement pour regarder notre nombril et trouver que le monde est beau pour nous, mais pour aider aussi les autres qui souffrent. Je crois que c'est aussi important. Quelquefois, on peut mettre en lumière la voix intérieure dépréciative et accusatrice. Il y a quelquefois une voix qui nous accuse à l'intérieur. Il y a tout ce qui est la conséquence de ces liens qu'il y a eu. Une voix intérieure qui nous déprécie, qui nous accuse, qui nous rabaisse. Elle doit être dénoncée au nom du Christ, réduite au silence. Parce que nous avons l'autorité de réduire au silence les paroles de l'ennemi contre nos vies. Et parallèlement, les liens doivent être coupés dans le ciel. Donc il y a sur la terre, en nous, des choses qui doivent s'opérer, mais aussi dans le ciel, des choses qui doivent s'opérer. Afin que le réseau serré et paralysant soit détruit. Non seulement dans la vie de la personne, mais aussi dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ça va dans les deux sens. Donc il y a deux directions, lier les esprits qui obsèdent, oppriment, paralysent, et délier l'âme captive du réseau paralysant instauré par l'ennemi dans sa vie. Voilà ce que Dieu veut faire. Alors, on pourrait lire aussi Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va reprendre-le, cela seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péché. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, etc. » Voilà, donc ici, on voit que lier et délier a un rapport avec le pardon. Un rapport avec le pardon. Un rapport même avec le fait de d'être ramené vers Dieu. Donc si un frère pêche, la discipline ecclésiastique pour tous, c'est que seul à seul, nous puissions lui parler avec amour, avec intérêt pour son âme, pas dans un esprit de jugement, mais dans un esprit de relèvement. S'il n'écoute pas, on sait que c'est mauvais pour son âme, et donc on ne va pas le laisser comme ça, c'est continuer à s'égarer, mais on prend un frère ou une sœur pour le ramener à la raison. S'il n'écoute pas encore, en général ça se fait à cette deuxième étape maximum, mais la troisième étape est possible, et la troisième étape c'est de dire à l'Église. Et qu'il soit comme un païen, c'est-à-dire on le remet dans le monde, et là il va se rendre compte ce que c'était de revenir dans la boue de ses péchés. Et puis on espère qu'il reviendra après dans la restauration, parce que Dieu veut, comme avec le fils prodigue, restaurer toute âme qui s'est détournée de la vérité. Dieu a toujours un plan de salut, jusqu'à, bien sûr, si on ne va pas trop loin dans le fait de s'endurcir, hein, bien entendu. Hein. Et je crois que c'est tellement important. Donc, il y a aussi, bien sûr, comme on a dit, ça touche le pardon, lier, délier, touche. En fait, ce que Dieu veut nous dire aussi au travers de ce texte, on ne le voit pas toujours, mais cette personne qui est dans le péché, il est lié par son péché. Et qu'est-ce que Dieu veut faire par rapport à ce qu'on dit dans le contexte? Ben, c'est délier cette personne de son péché. Donc on s'y prend d'abord seul, puis avec un frère ou une sœur, puis au niveau de l'Église, ça devient plus grave. Et donc, normalement, dans ces deux premières étapes, c'est pour aider la personne à sortir de ce lien qui l'empêche. Parce que l'Église n'est pas là pour condamner, l'Église n'est pas là pour juger. L'Église doit être là pour aider les gens. C'est la grâce de Dieu qui doit nous préoccuper. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, d'accord ? Et c'est par la grâce qu'un pécheur peut revenir vers la vérité. Et c'est comme ça qu'on va sauver à nouveau, je vais dire, la personne. La ramener, la délier, et enfin, elle sera gagnée. Elle sera gagnée. Donc, reprendre notre frère ou notre sœur, c'est pas la sermonner, c'est ramener, la relever, lui permettre de revenir dans cette liberté qu'il a perdue. Que quand on est assailli par le péché, on est captif du péché, on a perdu notre liberté. Et donc, là, on délie les gens de cette manière. En les rendant à la vérité, on les rend à la liberté. Et c'est tellement important, il y a donc une notion de pardon que Dieu accorde. Et nous sommes alors des facilitateurs du pardon que Dieu donne à la personne, en déliant les personnes. En liant tout ce qui est mauvais, en prenant autorité, mais il y a aussi cette douceur parce que nous avons affaire à une âme. Nous n'avons pas affaire seulement qu'à des démons, ça c'est derrière ça. Ça c'est en arrière-fond. En arrière-fond, il y a des puissances ténébreuses, mais en devant nous, il y a une personne en souffrance. Et c'est cette personne en souffrance que nous voulons aider. Alors, quelques obstacles utilisés par le diable dans notre vie. Quels sont les obstacles? Enfin, quelques-uns. On va en citer quelques-uns. L'esprit du légalisme. Voilà. Que l'ennemi peut utiliser pour nous faire du tort. Tout est organisé en fonction de règles, tout est jugé selon les règles, même l'amour est subordonné aux règles. On est bon qu'en observant les règles. Les règles sont imposées, elles nous cadrent et sont le summum de notre foi. À la limite, on n'a pas besoin d'écouter l'Esprit de Dieu et les prédicateurs si on se plie aux règles. L'Église sait tout et se permet de juger tout le monde et n'a de leçons à recevoir de personne, sauf s'il s'est mal comporté par rapport aux règles qui sont établies, qu'il a acceptées. Ça, c'est l'esprit du légalisme. Mais cet esprit du légalisme, on doit vraiment être libéré. C'est mauvais, c'est pas bon. On peut pas vivre une vie qui transpire l'amour du Christ en vivant en tant que légaliste. L'indiscipline. L'indiscipline, c'est un manque de soumission au Seigneur. Nous sommes normalement des disciples. Et le disciple est discipliné normalement, il prend du temps avec Dieu tous les jours, il ne laisse pas son temps se laisser volatiliser, on ne sait pas ce qu'on doit faire de sa vie, on ne sait pas ce qu'on doit faire. La discipline, évidemment, c'est une marque de soumission au Seigneur. Notre vie doit être marquée de cette manière. Les disciples, c'est ceux qui se laissent imprégner par le Maître. C'est ceux qui vivent tous les jours avec leur Seigneur. C'est pas des gens qui de temps en temps réapparaissent le dimanche matin, ils refont surface. Non, c'est tous les jours de la semaine. C'est chaque jour 24 heures sur 24 qu'on est disciple et on apprend à connaître son Seigneur en lisant la Bible, en recherchant Dieu, tout ce qui nous convient dans la Parole de Dieu et tout ce qu'on n'aime pas non plus, tout ce qui nous convient. Est-ce que ça nous convient toujours? Et je suis toujours d'accord que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Oui, je devrais toujours le dire. Je dois me plier à cela, comme Jésus, que ta volonté soit faite, non pas la mienne. La discipline, les contrariétés, accepter la frustration. C'est pas facile d'accepter la frustration. Vous aimez d'être frustré? Non, personne n'aime ça. On n'aime pas être frustré. Je n'aime pas ça et vous n'aimez pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie, on est souvent frustré. Non? Parce que si vous n'aimez pas ça, ben, l'ennemi va faire en sorte que vous le soyez. Hein, vous n'en faites pas. Et il y en a pour tout le monde. Et si quelqu'un me parle mal, vais-je lui intenter un procès? Est-ce que je vais intenter un procès? Aller en justice contre quelqu'un qui m'a mal parlé? Non. Je peux analyser pourquoi il m'a mal parlé. Avais-je tort? En quoi est-ce que j'ai tort? Et il faut revenir sur soi-même et dire, tiens, voilà. Y a-t-il quelque chose à changer dans ma vie? Et dans quel domaine de ma vie est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Les paroles étaient-elles exagérées? Peut-être que la personne qui me reprend de cette manière, peut-être exagère. Alors, en quoi est-ce que c'est exagéré? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie si il a eu un ton si dur? Je peux essayer de comprendre. Non seulement de voir mes fautes, mais comprendre l'autre, peut-être que c'est exagéré, mais pourquoi est-ce que c'est exagéré? Et voilà. Et donc, on remet les choses en place, on recadre la situation, plutôt que s'énerver, se mettre en colère, ou avoir un sentiment de vengeance en soi. Et parce que l'ennemi utilise ces choses-là. L'ennemi est le diviseur par excellence. Il parvient à nous diviser avec des trucs. Ah, il le fera. Alors, les inquiétudes et les agitations, bien sûr, devons les remettre au trône de la grâce. Hein. Vous savez bien, ne vous inquiétez de rien. Mais c'est facile à dire, ça. C'est pas toujours facile. Mais voilà, la parole de Dieu, elle est claire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il est fidèle, le Seigneur. Bon, si je m'obstine à penser à cette vie, ça c'est... J'entends, hein, mais je peux déposer, mais vraiment déposer, croire que c'est à lui, c'est plus à moi. Puis voilà, je peux dormir un petit peu. Voilà, l'impatience. L'impatience, nous ne voulons pas perdre de temps. Nous avons un problème quelquefois avec l'impatience. Le monde est impatient. Et quelquefois nous avons des illusions par rapport aux prophétiques, notamment. Nous avons des paroles prophétiques, nous voudrions que ces choses se passent tout de suite. Ce que Dieu nous avait dit, et il faut que ça se passe, hein, c'est aujourd'hui. Vous savez, Abraham, il a reçu une parole prophétique le concernant, il aura un fils, mais il n'a pas 25 ans. C'est pas facile. Alors, il peut y avoir du découragement. Et la tentation de prendre des raccourcis dans la volonté de Dieu. La patience est un fruit d'esprit. Dieu veut accomplir le fruit d'esprit parfaitement dans nos cœurs. Rien à faire. Nous sommes à l'école. L'école de Dieu. Les paroles négatives. Nous avons quelquefois des paroles très négatives où les autres nous disent des paroles très négatives. On va prendre simplement les paroles dites par les autres qui sont négatives. En sachant que c'est des familles. Elles apportent une part de vérité. Les paroles négatives apportent une part de vérité. Je pense qu'il y a une part de vérité. Quand les gens disent quelque chose, ils disent pas consciemment des choses mauvaises et méchantes. Je pense que la plupart des gens disent des choses en disant une part de vérité. Mais, aussi avec une part de destruction. C'est mal fait, pas à propos, c'est pas comme ça que ça aurait dû être dit. Et même la vision, la façon de regarder ces choses, c'était pas bon. Faisons attention de ne pas être des critiqueurs négatifs, mais de toujours relever, élever, voir ce qui est positif chez les autres. Le plus facile, c'est de citer nos qualités et de citer les défauts des autres. Mais non, pas de comparaison et pas de supériorité par la comparaison. Nous puissions vraiment aimer. Et c'est vrai, ne pas baisser, ne pas humilier. Hein. Et je pense que nous-mêmes, nous devons faire un travail sur nous-mêmes pour ne pas avoir de paroles négatives à notre propos. Que quelquefois, nous nous démolissons nous-mêmes, alors nous démolissons les autres. Parce que nous ne savons pas aimer plus les autres que nous ne nous aimons déjà nous-mêmes. Et donc, si je me suis déjà abattu, je vais abattre les autres, forcément. Et donc, faisons attention à être soucieux du bien-être, de notre bien-être intérieur, parce que Dieu nous considère avec amour. Il dit de nous que nous sommes des créatures merveilleuses. Et si moi je dis que je suis est-ce que je vais pouvoir aimer beaucoup des autres? Je vais faire peut-être des efforts énormes, mais si je me suis fait du tort à moi, je vais avoir très difficile de considérer les autres. Les pensées négatives, évidemment. L'ennemi travaille au travers de tout ça. Les pensées négatives, au reste, frère, toujours dans Philippiens 4, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les pensées sont le reflet de l'âme. Et je pense que c'est tellement important de nous aimer, comme je le disais, de nous aimer en pensée aussi, afin d'aimer les autres, de les respecter. Je crois que c'est tellement important. Le manque de connaissance des Écritures, évidemment, l'ennemi se sert toujours du manque de connaissance des Écritures. Faute de vision, le peuple périt. Nous allons périr si nous manquons de connaissance de la parole de Dieu. Jésus nous dit que, au travers de la vérité qui est sa parole, il nous libère, il nous affranchit. Ma parole vous affranchit, vous libère. C'est la parole libératrice. Moi, ça m'a fait un bien extraordinaire quand j'étais à l'IBB pour étudier davantage la parole. Je la lisais déjà à la maison, je l'étudiais, etc. Mais quand j'étais plus loin dans la connaissance, ça m'a fait un bien extraordinaire. Extraordinaire, c'est fabuleux. Bien sûr, la connaissance peut enfler, mais ce qui est important, c'est que nous puissions rester humbles. Et comment est-ce qu'on peut rester humble par rapport à la parole? C'est en la mettant en pratique. Si on la garde dans notre cerveau, nous allons avoir un gros coup, une grosse tête. Mais si nous mettons en pratique la parole, elle va nous rendre forcément humbles. Je crois que c'est tellement important. Le manque de connaissance des Écritures, et l'ennemi se sert toujours du manque de connaissance. Il va nous conduire dans des erreurs, des pensées qui ne sont pas justes, des façons de faire qui ne sont pas correctes. Le manque de connaissance de comment l'homme et la femme fonctionnent psychologiquement. Des fois, nous ne savons pas comment, les hommes ne savent pas toujours comment leur femme fonctionne. Les femmes ne savent pas toujours comment leur homme fonctionne. Il y a des dysfonctionnements comportementaux et de compréhension relationnelle. Dans les relations, il y a des manques parce qu'on ne comprend pas comment que l'autre fonctionne. Hein, par exemple, une petite phrase qu'une femme pourrait dire, « Je deviens grosse », et l'homme répond, « Tu aurais mangé un peu trop ces derniers temps ». En fait, elle voulait savoir ce que son mari pensait d'elle. Et elle voulait t'encourager dans l'autre sens, malheureusement. Le mari aurait dû répondre, « Non, personnellement, je ne trouve pas, je sais que tu fais attention. » Et nous pouvons rassurer, ou nous pourrons aller dans le sens, creuser le problème, et aller encore plus bas. Et la personne voudrait être relevée, elle voudrait savoir, mais des fois, on n'arrive pas à comprendre, et on veut être tellement vrai qu'on va dans le même sens que la personne, et on ne comprend pas la manière qu'elle a eue d'exprimer son désarroi, on va dire comme ça. Alors, il y a encore autre chose, le besoin de tout contrôler. Et il faut laisser le contrôle à Dieu. Des fois, je veux tout contrôler dans ma vie, mais non, je peux pas tout contrôler. Alors, je remets le contrôle au Seigneur. Que ce soit le Seigneur qui dirige toutes choses. Lui faire confiance, pleinement confiance. Et l'esprit de contrôle, c'est vraiment l'esprit de contrôle. On pourrait très bien être pasteur et vouloir tout contrôler dans les petits détails. Et alors, c'est plus Christ qui règne, c'est le contrôle permanent sur les gens, sur tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Et l'esprit de contrôle, c'est pas bon parce qu'on peut en arriver alors à une méfiance et puis finalement à une manipulation. Les gens finalement se laissent manipuler. Éventuellement, ça pourrait se produire. Alors, on n'a plus une église qui est libre, mais dictée par les lois d'une personne. Donc, faisons attention à ce genre, le besoin de tout contrôler. Laissons à Dieu le soin de contrôler notre vie. Encore, il nous laisse libre. Il nous laisse libre, mais il prend soin de nous. Prendre soin, c'est autre chose. La difficulté de céder la place à Jésus pour les décisions, la difficulté de laisser Dieu gouverner notre vie. Est-ce que c'est moi, ma volonté qui dirige, ou bien Christ? Le manque d'obéissance à ce que nous savons déjà. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions obéir à tout ce que nous savons déjà. Il ne demande pas qu'on obéisse à des choses qu'on ne sait pas encore. Ça, il ne nous le demande pas. Mais ce que nous savons déjà de la part de Dieu, c'est ça qu'il veut que nous obéissions. Et quelquefois, on met ça pour plus tard. On a mis ça sur le côté, on n'a pas obéi. Et alors, les problèmes sont là. Le manque de pardon. Le manque de pardon, évidemment, l'ennemi se sert de ça. Le manque de pardon, ça y détruit tout. Ça, ça les relations sont détruites. Les couples sont détruits. Les relations fraternelles sont détruites. Des tas de problèmes. Le fait de disproportionner nos montagnes, de les voir plus grandes que ce qu'elles ne sont en réalité. Alors là, si vous avez ce problème, eh bien, allez chez l'ophtalmologue spirituel pour revoir les choses correctement, faire des corrections, hein, au niveau des lentilles, au niveau des verres, pour revoir correctement les choses d'une manière proportionnelle. Remettons les choses proportionnelles, hein, par rapport à la réalité et à la gloire qui suivra notre vie, que nous puissions toujours mettre nos montagnes devant la gloire qui nous est préparée par le Seigneur. Voilà. Le fait de ne pas régler ces problèmes un par un, à la fois, si nous ne réglons pas nos problèmes, les uns après les autres, qu'est-ce qui se passe? Il arrive un moment où il y a trop de problèmes, vous ne pouvez plus y faire face, et on tombe dans la dépression, c'est le burn-out, on ne sait plus s'en sortir, on est dépassé. Le désir, par exemple, aussi de faire des choses plus grandes, et rien que des choses plus grandes, parce que Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi j'en ai faites, et on peut avoir le désir de ne faire que des choses très grandes pour Dieu. Bon, c'est pas que c'est mauvais, ça. C'est pas une mauvaise chose d'avoir ce désir de faire des grandes choses, mais Dieu veut qu'on commence par ça, des petites choses. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous accomplira des grandes, mais si on veut faire que des grandes, ça marchera pas. Il y a des gens comme ça qui n'ont jamais rien fait de leur vie parce qu'ils voulaient faire que des grandes choses. Donc il y a rien de... Une trop grande importance de ce que les autres pensent de nous. Ça, c'est aussi. Alors, on va tout faire pour faire plaisir, pour que les gens soient contents de nous, et on va tout faire pour qu'ils ne disent surtout pas du mal de nous. Et si on est préoccupé par ça, on ne pourra pas être préoccupé par la gloire de Dieu. Parce qu'on ne saura pas plaire à Dieu constamment et plaire aux hommes. Jésus, c'est vrai, plaisait à Dieu et il plaisait aussi aux hommes. Parce qu'il se soumettait à ses parents, etc. Et là, dans son enfance, on regardait les enfants, la manière dont ils étaient éduqués, etc. Mais quand il est devenu grand, c'est vrai qu'il n'a pas plu à tout le monde. C'est impossible de plaire à tout le monde. Il y a des gens qui n'acceptent pas toujours que nous puissions vivre pour sa gloire. Voilà, donc, il y a tellement de choses à dire, et j'en passe. J'en avais beaucoup d'autres, mais... Alors, comment être dégagé de ces entraves? Comment être dégagé de ces entraves? Ben, la première chose, c'est reconnaître notre besoin d'être libéré. Reconnaître notre besoin d'être libéré. Confesser nos fautes. Pouvoir ouvrir son cœur à Dieu. Et si ça ne suffit pas, demander de l'aide. Il y a des gens dans le corps de Christ pour aider ceux qui souffrent. Et donc, on peut demander de l'aide. C'est pas une humiliation. Au contraire, ça va aider la personne à s'en sortir. Avoir foi en Dieu qui répond à la prière. Accepter que d'autres prient afin d'obtenir cette délivrance. C'est important. Discerner et prendre autorité sur les puissances ennemies. C'est très important aussi. Dieu nous a donné de l'autorité. Il faut qu'on se serve de ce que Dieu nous a donné. Couper tous les liens, on l'a vu. Couper tous les liens. Et si on ne sait pas le faire soi-même, ben les autres le feront pour nous. Mais avec l'acceptation du désir. Remercier Dieu. Vivre pleinement notre vie en lisant et pratiquant la parole. C'est comme ça que nous allons avoir une vie victorieuse. Adorer Dieu, c'est vraiment le désir de Dieu, c'est que nous soyons dans sa présence. Et dans la présence de Dieu, on est déjà protégé par sa présence. Témoigner aux autres de notre délivrance, parce que quand on est délivré dans quelque chose, dans un domaine de notre vie, nous avons un témoignage à apporter. Et un témoignage. Et bien sûr, tous les jours, prendre toutes les armes de Dieu pour neutraliser l'ennemi. C'est lui qui veut nous neutraliser. Il nous a neutralisé. Maintenant, nous avons neutralisé l'ennemi en prenant toutes les armes de Dieu, offensives et défensives, et pour délivrer les autres en étant partenaire de Dieu. Voilà. Sur lier et délier, beaucoup de choses. Dieu veut que nous soyons libres.